Musique Matin, le 7h30, 9h de Gabriel Oliver Aguillon.
Chef d'orchestre, directrice musicale d'Insula Orchestra depuis 2012, d'Accentus depuis 91, qu'elle a créé, Laurence Equilbet est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons parler de votre actualité estivale, août et septembre, et puis la suite évidemment, cette saison 2021-2022. Alors au plus proche, le 30 août, ce lundi, vous serez en concert au Festival Berlioz, à la Côte-Saint-André, pour cette pastorale pour la planète, avec Sophie Kartauser, l'Insula Orchestra, donc, et vous, à la direction, un programme d'ailleurs que vous donnerez ensuite en Allemagne. Et c'est un programme très fourni que vous avez déjà donné avec une mise en scène. Là, ce sera une version de concert.
Voilà, exactement. En fait, c'est un projet qui s'appelle Pastoral for the Planet, Pastoral pour la planète, qu'on avait initié il y a même 2 ans et demi, 3 ans maintenant. J'avais proposé à la Fora d'Elsbaus de réfléchir à un projet autour du climat.
Donc ça, c'est une compagnie voilà, avec des plasticiens.
Et il se trouve que c'est un collectif catalan très, très talentueux, et aussi au plasticien Mihail Milunovic. Et donc, on a fait ce projet en février 2020, juste avant que les portes ne se ferment. Et ça interrogeait vraiment les questions du climat, et c'était interactif avec le public qui pouvait vraiment réagir pendant tout le spectacle, et surtout la fin était alternative selon qu'on était optimiste ou pessimiste.
Ah d'accord.
Et donc il y avait pas la même fin, un peu comme dans certains films. Et c'était très intéressant parce que vraiment ça interrogeait sur le devenir de l'humanité. Et donc du coup ce projet, on devait le faire effectivement à Brême, à Dortmund, qui sont des coproducteurs, donc du coup ça a reporté à début septembre. Et au Festival de Berlioz, je suis ravie qu'on nous puissions faire la clôture avec l'essentiel de ce programme en version de concert, avec aussi Stanislas de Barbera et Sophie Kartauser, avec des œuvres de Berlioz évidemment pour le Festival de Berlioz, et je serais vraiment ravie de cette invitation.
Berlioz donc évidemment, Raïcha, Fanny Mendelssohn, Beethoven, donc tout ça autour d'une idée forte, la force des liens entre la nature et l'homme. C'était déjà un lanceur d'alerte, Beethoven, sur les bouleversements de la nature.
Absolument. D'ailleurs, c'est ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que la première partie était vraiment des musiques de désastre, de la tempête, des tsunamis, des choses vraiment très difficiles que parfois la musique, surtout notamment au XVIIIe siècle, exprime. Et effectivement, il y avait une application, les gens pouvaient avoir les portables pendant le concert et jouer avec une application. Et il y avait beaucoup, beaucoup de phrases de lanceurs d'alerte de l'époque de Beethoven, dont Beethoven lui-même, qui était vraiment très, très, très fâché qu'il y ait beaucoup de plomb dans l'eau. Et donc, d'ailleurs, il était tombé malade avec ce plomb dans l'eau. Donc, il a alerté. Enfin, il y avait beaucoup de, je sais pas si on les appelle aujourd'hui d'écologistes au 18e siècle, 19e siècle, mais il y avait vraiment
des gens très
déjà
inquiets.
Très inquiets, ouais.
Et alors, est-ce que c'est évident de concilier le souci historique, la partition, les pratiques d'une époque avec l'imagination, l'esthétique et puis le numérique, justement? Là, vous parliez de cette mise en scène qui ne sera pas à Berlioz, mais c'est quelque chose que vous aimez, vous?
Oui, en fait, tout à fait. C'est-à-dire, c'est le projet d'Insula Orchestra, la scène musicale, c'est justement cette recherche historiquement informée. On a des musicologues, on va faire d'ailleurs un sommet international des orchestres sur instruments d'époque en 2023, mais aussi de chercher les clés de résonance avec notre époque tout en étant au plus près de la volonté du compositeur. Voilà, donc c'est une sorte de grand écart, mais moi je suis un peu de l'école Arnoncourt, parce que j'ai étudié avec lui à Vienne, et c'est vraiment sa philosophie, c'est-à-dire de chercher le moment où l'œuvre veut dire quelque chose dans sa résonance actuelle.
Une autre actualité, puisqu'on va en écouter un extrait, Louise Faring, votre disque tout récemment sorti, à la tête toujours d'Insula Orchestra, sur instrument d'époque. Louise Faring, une compositrice née en 1804, c'était essentiel pour vous de valoriser ce patrimoine musical? Est-ce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs des compositrices qui ont écrit pour une formation symphonique
Alors,
cette période?
En fait, effectivement, à cette époque-là, au début du 19e siècle, milieu du 19e siècle, il y en a très peu, et notamment en France, parce que le genre symphonique n'était pas le genre primordial, c'était plutôt l'opéra à cette époque. Et du coup, c'est vrai que l'œuvre de Faring est vraiment très, très étonnante, et je pense qu'avec les instruments d'époque, on ravive un peu cette urgence qu'elle écrit. Et elle a écrit 3 symphonies, et ensuite 2 ouvertures pour ce qui est répertoire symphonique. Et c'est vraiment de très belle facture. On est très heureux de commencer cette intégrale de ces symphonies.
Ensuite, le début d'une intégrale.
Oui, parce qu'elle en a écrit 3, donc c'est quand même assez facile. Et 2 ouvertures, donc on va faire ça. Et c'est vraiment, on est très très heureux de ça, parce que ça ravive toute cette musique. Et on va continuer ce chemin, d'ailleurs, grâce à Warner, d'ailleurs, qui a lancé une ligne compositrice, y compris patrimoniale. Donc après, on va s'intéresser à Emilie Meyer, qui est aussi une grande symphoniste, et puis Fanny Mendelssohn et Clara Schumann.
Alors, voici tout de suite Louise Faring. Le menuet de la symphonie numéro 1 en ut mineur opus 32 de Louise Farinck, interprété par l'Insula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbet, notre invité ce matin. Laurence Equilbet, donc, avec cette Insula Orchestra, vous êtes en résidence à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, en charge aussi donc de la programmation de certains concerts. Quelles vont être les grandes lignes de votre saison 2021-2022 à la scène musicale, d'ailleurs comme ailleurs, en tournée?
Oui, alors c'est vrai que la scène musicale est vraiment une salle formidable pour notamment les orchestres sur instruments d'époque, je trouve. Ça devient un peu un bastion. D'ailleurs, on en invite beaucoup. Mais nous avons plusieurs temps forts, peut-être cette année à révéler. C'est un chemin Beethoven, d'ailleurs, qu'on continue avec Nicolas Sanguilich autour des concertos de piano. Donc là, on enregistre le troisième concerto. Et donc, dans ces programmes un peu plus romantiques, nous donnons aussi cette année un concert avec Caroline Widman et le concerto pour violon de Mendelssohn et la première symphonie de Schumann. On a aussi des chemins baroques avec, par exemple, l'oratorio de Noël de Bach. Et puis
où là, il y aura Accentus, donc.
Absolument, avec Accentus. Et notre partenaire vraiment... naturel, puisque c'est un chœur que j'ai créé maintenant il y a quasiment 30 ans.
Bon. C'était en 91, ça fait 30
ans. Oui, tout à fait. Oui, mais en fait, on le fait en 92.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est ça. Et puis, donc, un programme aussi qui s'appelle Dixit Handel, avec une première partie autour des opéras d'Ario Dante et de Rodelinda, et puis la deuxième partie avec le Dixit Dominus, c'est le fameux motet de Handel, le psaume 110, qui est vraiment merveilleux, avec Accentus, évidemment. Et puis, je peux aussi parler du projet d'opéra qu'on a avec Fidelio, mis en scène par David Bobet, qui vient de prendre le CDN de Lille et qui est vraiment très... avec qui j'avais fait La Nonne Sanglante à l'opéra de Comique, d'ailleurs. Ouais. Et donc, il est un metteur en scène assez engagé et j'aime beaucoup travailler avec lui. Et puis, je finirai en citant peut-être notre appétence pour l'œuvre de Mozart, évidemment, puisqu'on sort de faire un gros projet avec Philippe Découfflet. Et là, on fait un programme qui s'appelle Mozart à Prague, avec Anna Stefani, la soprano. Et puis surtout, il y a une création scénique à la fin de l'année ou pendant le festival Mozart Maximum s'appelle une journée particulière et c'est vraiment la dernière journée où Mozart travaille en ville, il a beaucoup de choses à faire, après il va s'aliter malheureusement pour mourir et c'est mis en scène par David Lescaut et c'est Thomas Enko qui fera le rôle de Mozart. Voilà.
Ah oui.
Et donc ça, j'attends beaucoup ce projet, ça sera aussi avec des dessins de Sagar Fornies qui d'ailleurs avait fait un projet ici à la Radio France pour le Stravinsky, le Sac du Printemps. C'est quelqu'un qui fait des dessins de ville notamment extraordinaires. Et puis effectivement, vous l'avez rappelé, la scène musicale, évidemment, moi je suis une petite partie de la programmation. Il y a aussi beaucoup d'autres phalanges qui viennent s'y produire, et notamment des grands orchestres internationaux comme l'Orchestre Symphonique de Berlin, l'Orchestre National de Lyon, l'Orchestre de Bergen. Et puis enfin, une place forte effectivement pour l'émergence de jeunes artistes et pour les orchestres sur instruments d'époque, comme je pense à l'Arconne avec la Capella Mediterranea, ou le Consensus Musicus de Vienne, qui était l'orchestre d'Arnancourt que j'aime beaucoup, ou encore le Café de Zimmermann. Et puis pour les familles, parfois vous avez aussi des classiques du dimanche à 11h. Et cette série, c'est pas moi qui l'initie, mais je sais qu'elle a énormément de succès.
Absolument.
Voilà. Et du coup,
tous ces rendez-vous à la scène musicale.
Voilà. Et j'ajoute juste quelques temps forts d'Accentus parce qu'il y en a un qui se passe chez vous à la radio. C'est un programme de musique française autour de l'œuvre a cappella de Anne et de Saint-Saëns avec Christophe Grappron. Et donc, ça sera aussi un enregistrement. Et du coup, il démarre l'année très fort aussi avec beaucoup de créations.
Ce sera quand ce concert ici à Radio France?
C'est début octobre. Mm-hmm. Et du coup, il commence aussi avec des création, notamment une création du sapin pour le Panthéon, qui est avec la Philharmonie de Paris, et puis aussi des chants libres initiés par la Fondation Bettencourt-Schoeller, qui sont vraiment un concept très intéressant de concert un peu surgissement autour d'un concert traditionnel, on va dire, et qui se passe dehors la plupart du temps, un peu comme les flash mobs à l'époque, mais de quelque chose d'un tout petit peu plus anticipé de la part des artistes.
Est-ce qu'il y aura à l'honneur aussi des compositrices telles que Louise Farinck, justement, toute cette saison?
Oui, tout à fait. Alors, notamment Accentus qui fait deux créations, donc Aya Sarriao, on ne la présente plus évidemment, mais aussi à ses côtés d'une jeune compositrice qui s'appelle Sivan Eldar. Et donc, effectivement, Accentus commande régulièrement des œuvres contemporaines, et notamment à des compositeurs, mais aussi à des compositrices. Voilà.
Alors, Laurence Equilbet, vous nous avez parlé de Nicolas Sanguelich, vos programmes Beethoven, donc très bientôt le concerto pour piano numéro 3. 3, la symphonie numéro 4, en tournée. Hein, vous allez commencer le 24 septembre à Besançon, puis à Belfort, à Échirol, à la scène musicale, donc les 29 et 30 septembre. Et vous avez déjà enregistré avec lui. Vous commencez, enfin vous continuez cette intégrale des concertos.
Oui, c'est ça. Donc on a
5
fait le,
au total, et puis les symphonies également.
On a le 4 et 5 avec Nicolas, et puis on enregistre là le 3, et la prochaine saison, le 1 et le 2. Voilà, on va finir cette intégrale ensemble, parce que on enregistre ça avec un piano Pleyel, mais de 1892, donc c'est un peu plus tardif que Beethoven, mais ça fait un très bon compromis dans les grandes salles actuelles. C'est un piano que j'aime beaucoup. Et je dois mettre aussi peut-être un peu en lumière tout le projet pédagogique qu'on tisse autour de cette programmation artistique, parce que c'est très important pour nous, l'éducatif, la transmission et l'inclusion, surtout aujourd'hui avec ce qui se passe en Afghanistan. Voilà, et peut-être dans les choses nouvelles, j'annonce quand même la création d'un centre de ressources d'Insula Orchestra, qui va s'appeler Insula Documenta. On a déjà fait un centre de ressources pour Accentus qui s'appelle le CEN, C-E-N. Et ça, c'est vraiment à destination de tous les publics, soit amateurs, professionnels ou même qui ne connaissent pas la musique. Ça donne vraiment toutes les ressources qu'on a pu générer. C'est une forme de sédimentation à la fois musicologique, mais aussi grand public sur nos travaux depuis.
Alors, et c'est en ligne ou c'est quoi?
Oui,
un lieu
concret. C'est une plateforme en ligne. Et c'est aussi un lieu physique où on peut aller sur rendez-vous. Bon, le Documenta d'Insula Orchestra n'est pas encore créé, mais il ne va pas tarder dans cette année.
On va écouter le rondo du concerto pour piano numéro 4 de Ludwig van Beethoven que vous avez enregistré, donc Laurence Equilbet à la tête d'Insula Orchestra et Nicolas Angelisch au piano. Thank you. la fin du rondo du concerto pour piano numéro 4 en sol majeur, opus 58 de Ludwig van Beethoven, interprété par Nicolas Sanghelich au piano avec l'Insula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbet, des musiciens que vous retrouverez en concert très prochainement pour le concerto numéro 3, cette fois-ci de Beethoven. Beethoven, Laurence Equilbet, vous êtes avec nous ce matin.
Nicolas Sanghelich, parce que j'adore faire ces musiques avec lui, parce qu'il joue Beethoven vraiment comme j'adore, avec une rythmique très solide, beaucoup de poésie dans le son, beaucoup d'impulsion et de ce côté agitatoire qu'a toujours la musique parfois de Beethoven. Donc je suis ravie de le retrouver cet automne.
Pour ces rendez-vous. Laurence Equilbet, vous avez signé une tribune dans Le Monde début juillet sur les efforts, la créativité des structures musicales fragilisées évidemment pendant le confinement. Vous avez parlé de l'inclusion, la transmission, le numérique, ça peut passer par quoi d'autre aussi, tous les efforts pour que le public le plus large possible vienne au concert.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'inclusion, c'est quelque chose de très important avec l'ancrage territorial. On s'adresse vraiment au public assez éloigné de la culture, on s'adresse aux primo-arrivants, on s'adresse aux jeunes qui sont parfois en déshérence. Et du coup, évidemment, le numérique est un allié très fort pour ça, parce qu'on peut créer des modules à leur intention, essayer de leur trouver un lien dans la parole avec ces modules. Et avec Insula Orchestra, depuis le départ, on est très, très dynamique sur ce sujet-là, avec des web-séries, des flash mobs, des clips artistiques, etc. Bien. Et aussi dans l'accueil au concert, évidemment.
Alors, des concerts, il y en aura aussi avec Action Tous, on en a parlé, et entre autres à Radio France pour ces rendez-vous Chorus Line qui vont avoir lieu toute cette année, donc à l'honneur, la musique chorale.
Oui, tout à fait. Ça, je félicite la programmation du chœur de Radio France, parce qu'ils initient donc une série qui s'appelle Chorus Line, avec aussi quelques invités. Donc, nous, on a la chance d'être invités dans le cadre de cette série. Et l'année dernière, on aurait dû faire un programme qu'on fait maintenant avec les grands double chœurs de Brahms et le Friedrich Ferdinand de Schoenberg, dirigé par Markus Kried, qui est un grand chef de chœur. Et ça revient aussi. Mmh. Et effectivement, c'est très important que à Paris et en région, on ait une ligne de concerts a cappella, parce que c'est vraiment c'est très important pour un chœur d'en faire régulièrement. Voilà. Donc moi, je n'en fais plus personnellement, mais j'invite des grands chefs pour le faire avec la nouvelle génération des chanteurs. Accentus.
Alors Laurence Equilbet, une question quand même qu'on ne peut pas ne pas vous poser. L'Opéra Comique recherche actuellement son directeur, cette directrice, Olivier Manteipart. Il va prendre ses fonctions à la Philharmonie de Paris en novembre prochain. La place est donc libre à l'Opéra Comique. On dit que... Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous avez postulé pour ce poste? Où ça en est, tout ça,
voilà. Laurence Equilbet? Écoutez, moi j'aime beaucoup la musique française de l'époque, de l'histoire de l'Opéra Comique, et j'aime beaucoup aussi la mettre en contexte, avec un contexte plus européen, notamment sur les Singspiel ou autres fables ou autres contes. Et c'est très important, cette musique avec texte, la plupart du temps, hein, parce que l'opéra comique, ça n'est pas que ça, mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est évidemment cette forme d'opéra avec du parler et du chanter. Et donc, moi, j'aime beaucoup ça. J'ai même enregistré Ciboulette, j'ai enregistré de Reynaldo Hahn, j'ai enregistré La Nonne Sanglante de Gounod, et puis j'ai enregistré du Félicien David. J'aime beaucoup, beaucoup cette période de la musique française. Et la création, évidemment. Et donc, oui, comme vous avez raison, il y a beaucoup de chefs d'orchestre qui se sont positionnés cette fois-ci.
Donc,
Marc Minkowski, il y a aussi Louis Langré qui revient des États-Unis, il y a moi, il y a aussi, je crois, Raphaël Pichon. Voilà, donc cette fois-ci, beaucoup de dossiers, dont 4 chefs d'orchestre au moins, hein, sauf si j'en oublie. Et du coup, je pense que c'est parfois important quand même de pouvoir céder des maisons à des musiciens. Mmh. Parce qu'on est habitué dans ces maisons de voir des metteurs en scène, et c'est très bien évidemment, parce qu'ils ont le plateau à cœur. Mmh. Mais les musiciens, parfois, pour diriger des maisons, c'est bien aussi.
Donc, on
est assez militant. Oui, on verra bien que c'est vraiment, c'est pas une compétition. Nous, on adore tous cette maison. Moi, c'est une maison que je connais bien. Je connais les équipes, je connais la mission, je connais vraiment les enjeux aussi éducatifs qu'il faut faire. Je connais la maîtrise populaire. Donc voilà, j'ai envie de créer, de diriger une maison maintenant. Je crois que c'est le bon moment pour moi. Mais écoutez, on verra bien. Hein. Allez, absolument. À Jacques d'Est.
Merci beaucoup Laurence Equilbet d'avoir été avec nous. Je rappelle que
c'est
vous serez sur la scène du festival Berlioz ce lundi 30 pour cette pastorale pour la planète. Et puis quand même, une autre dernière question que nous posons à chacun de nos invités, Laurence Equilbet, vous partiriez où, là, maintenant, avec qui et en écoutant quelle musique?
Ah oui, très bien. Bah écoutez, moi je viens de quitter la Provence où je suis l'été pour étudier mes partitions. Donc je repartirai là-bas, mais okay. À condition qu'il fasse le même temps que au mois d'août. Parce que j'adore la Provence sous le soleil avec les pins qui sentent bon et qui craquent sous vos pieds. Et puis ben là, je repartirai avec une partition, par exemple Filelio que j'étudie en ce moment et j'adore cette œuvre et donc je ferai ça. Et puis avec des amis. J'aime beaucoup mes amis.
Merci Laurence Equilbé. C'est pas Beethoven, là, mais c'est Mozart. C'est une très belle fin d'été.
Merci.